se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Le grand oral des grandes gueules.
Jean-François Copé, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur RMC, RMC Story. La bataille de la présidentielle a commencé, notamment à droite, avec des espoirs cette fois-ci de l'emporter. Le problème, c'est que vous avez du mal à vous organiser. Alors vous, vous êtes primaire ou pas primaire ?
Je suis pour la primaire, on va dire, contre la primaire. Alors moi, je suis totalement contre, pour le coup, totalement. Je suis même très, très inquiet, parce que j'étais assez content, comme tous les gens qui partagent nos idées, du résultat des régionales, qui succédait au résultat des municipales, dans la droite ligne de la vague bleue de 2014. Donc moi, j'étais plutôt assez content, et en fait, dès le lendemain, est revenu les vieux démons. Donc cette primaire, c'est l'un des symboles de ces démons habituels, c'est-à-dire cette capacité qu'on a à droite à recréer, hélas, des luttes fratricides qui rendent les gens foudrage quand ils nous regardent.
Mais vous l'avez déjà défendu, vous, la primaire, vous avez même été candidat.
Ah non, mais c'est bien parce que je l'ai vécu en direct que j'ai compris qu'il fallait tirer les enseignements du passé. Ce sont des machines à broyer. Parce qu'en vérité, on ne désigne pas le candidat à la présidence de la République, on désigne des écuries qui se détestent tout de suite, puisque tout est bon pour, en réalité, créer de la haine. Et c'est d'autant plus terrible que, par la crise de leadership que connaît la droite depuis un certain nombre d'années, beaucoup de gens se disent, finalement, pourquoi pas moi ? Et donc, vous êtes dans un espèce de système où on oublie un détail, c'est qu'on est dans une situation où, avec la présidentielle, il y a un seul lit pour plusieurs rêves, en fait. Et donc, du coup, tout le monde est à s'imaginer qu'il pourrait le faire, au motif qu'il a côtoyé à un moment de sa vie un président de la République. Il dit, tiens, je pourrais le faire, moi. Puis même, je pourrais peut-être même faire mieux que lui. En pratique, c'est pas comme ça que ça marche, quoi.
Mais justement, concrètement, ça se passerait comment pour désigner votre candidat ? Ça serait.
C'est tout le problème. C'est-à-dire que on est en train de recréer l'usine à gaz telle que, pour ma part, je la redoute, parce que ça veut dire un contexte dans lequel les candidats susceptibles d'être en lice sont des candidats qui n'ont absolument pas la densité qu'ont pu avoir, quel que soit ce qu'on en pense, ceux de la dernière fois. Genre, en 2016, c'était un ancien président de la République, deux anciens premiers ministres, Sarkozy, Juppé, Fillon. Là, on n'est évidemment pas à ce niveau-là. Deuxièmement, à l'époque, c'était encore l'UMP. Enfin, ça commençait à devenir LR, mais c'était... Moi, quand j'ai quitté mes fonctions à la suite de la haine dont j'ai été l'objet avec cette lamentable affaire Big Malion, dont j'ai été par ailleurs totalement innocenté, comme vous le savez. Enfin, à l'époque, c'était j'étais le émissaire idéal.
Vous avez participé à ce moment-là, en tant que témoin.
À ce moment-là, on avait pratiquement entre 350 et 400 000 militants, sympathisants, engagés. Enfin, c'était un parti de masse. Bon, aujourd'hui, on est à 60, 70 000 militants. Donc, ça veut dire que vous allez avoir un corps électoral hyper restreint. Et que même si on l'élargit un peu, les conditions vont être très drastiques pour qu'il n'y ait pas trop de monde. Bon, dans un contexte d'abstention. Et deuxièmement, qui va être candidat ? Vous allez avoir soit des gens qui se disent, je vais avoir une campagne de notoriété pour pas cher parce qu'on ne me connaît pas. Donc, comme ça, je vais être un peu candidat. Bon, super. Mais enfin, c'est pas pour la présidentielle. Vous allez avoir des candidats LR qui vont évidemment se jeter sur Valérie Pécresse, que moi j'aime beaucoup, mais qui n'est plus LR. Et donc on va dire, vous n'allez même pas voter pour elle, elle n'est plus de la bande, elle nous a quittés. Donc on va être dans
mais
une espèce de...
Bertrand non plus n'est plus LR.
Oui, mais lui, il a fait un bon coup d'une certaine manière, parce que lui, il a dit, moi, j'irai pas à la primaire.
Oui, il a dit, de toute façon, il n'est pas dans le jeu.
Mais ça, c'est l'autre sujet qui vient encore compliquer le reste. C'est-à-dire qu'une fois qu'on désignerait un gagnant dans des conditions de rabais, parce qu'en plus, je comprends qu'on ne ferait qu'un seul tour. Donc, c'est-à-dire que le gagnant, il aurait 30% des voix de la primaire, où il y aurait déjà peu de votants. Et puis après, pendant ce temps-là, vous avez Xavier Bertrand qui dit, vous pouvez vous élire entre vous, tant que vous voulez. Moi, j'ai une conception, c'est ce qu'il a dit, d'une relation directe entre le peuple français et le candidat. Donc, moi, je suis quoi qu'il arrive candidat.
Est-ce que c'est pas lui le candidat naturel de la droite cette fois-ci, Xavier Bertrand ?
On verra ça à l'automne. La vérité, c'est que...
C'est quoi ? C'est les sondages qui vont vous le dire ?
Moi, je pense qu'une campagne électorale, c'est une dynamique. Après tout, Jacques Chirac, en 1995, il n'y a pas eu de primaire. Bon,
Il y a eu deux candidats au premier tour de la droite.
Oui, mais c'était deux conceptions différentes de la droite à l'époque. Oui, moi, je peux vous en parler savamment. Oui. C'est comme ça que j'ai commencé ma vie jeune, engagé en politique. J'étais à fond derrière Jacques Chirac, d'ailleurs, parce que pour moi, c'était vraiment ce à quoi j'aspirais.
Mais il y avait quand même deux candidats au premier tour. Alors, il peut y avoir peut-être plusieurs candidats au premier tour.
Ça n'a pas empêché la droite de gagner, accessoirement.
Oui, c'est vrai.
Même si là, la situation est évidemment différente. De la même manière, Nicolas Sarkozy, en 2007, n'avait pas de primaire. Emmanuel Macron n'était même pas issu d'un parti. Et il a gagné. Oui. Donc, je pense qu'il faut quand même voir que les choses ont beaucoup changé. Et quand même, si on va au bout de la logique, nous, on a un objectif. C'est qu'il y ait impérativement un candidat de droite qui soit qualifié au second tour. Parce que sinon, c'est la fin de la droite française.
Hein, surtout, vous en avez beaucoup des candidats de droite, parce que vous avez, pour l'instant, si on compte M. Bertrand et un LR qui se détache, on a aussi Mme Le Pen et M. Macron, ça fait quatre candidats de droite. Ça va être difficile le premier tour dans
alors,
ces conditions.
Alors, c'est une question hyper intéressante sur laquelle je ne peux pas vous suivre complètement.
Vous allez me dire que M. Macron n'est pas de droite et Mme Le Pen non plus.
Je vais même développer un peu, ça vaut la peine. Et comme nous sommes l'un et l'autre férus d'histoire, nous n'oublions pas l'histoire de France. Donc Madame Le Pen, c'est l'extrême droite, voilà. Et l'extrême droite, c'est pas la droite. Et comme on a tous une mémoire, on sait que on joue pas avec ce genre de feu. Voilà. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'en ai toujours fait la démonstration. J'ai même assumé de construire, à l'époque où j'étais en charge de la droite française, le concept de droite décomplexée, c'est-à-dire qui s'excusait pas toute la journée d'être de droite et qui s'excusait d'autant moins qu'elle refusait toute alliance avec l'extrême droite. Bon. Donc Le Pen, c'est l'extrême droite.
Et d'ailleurs, vous vous rappelez qu'on disait de vous que vous étiez d'extrême droite.
Pas tous.
Que vos propos. Non, mais
non, les gens de gauche. Les gens de gauche.
Ah ben voilà. Oui.
On est rapidement à l'extrême droite.
Mais les gens de gauche. Quand vous êtes de gauche.
Aussi, hein.
Mais quand vous êtes quand vous êtes à gauche, vous avez très vite la tentation de dire que tous ceux qui ne sont pas de gauche sont d'extrême droite. Enfin, c'est un autre débat. Je serais ravi de l'avoir avec vous, mais une autre fois. Pour finir. Donc, Madame Le Pen, c'est l'extrême droite. Monsieur Macron, comment vous dire? Moi, au début de son quinquennat, en fait, dans un moment de spontanéité, j'avais dit, tiens, c'est peut-être le président de droite qu'on n'attendait plus. Vous voyez? Et en fait, je suis déçu. Je me suis rendu compte, par exemple, que il avait échoué sur le plan régalien. C'est-à-dire, ce que j'appelle régalien, c'est tout ce qui est sécurité, justice, le cœur de l'État. Aujourd'hui, 5 ans après, je vois que il y a une dégradation des conditions d'exercice de la sécurité en France, qu'il y a des débats sur lesquels nous avons reculé par rapport à la République, et qu'il a laissé faire, voire parfois qu'il a encouragé. Dans le domaine de la laïcité, on a reculé, quoi qu'il en ait dit, quoi qu'il ait fait cette loi. Elle n'apporte pas les réponses qu'on attendait sur un certain nombre de sujets. Bon,
et sur
il a, de la même manière, fait aucune réforme structurelle qu'on pouvait attendre. Moi, qui étais ministre du budget pendant des années, j'attendais avec impatience la réforme des retraites, qui n'est jamais venue. Et ainsi de suite, sur d'autres domaines. La réforme de l'État se réduit à simplement cette annonce grotesque de supprimer l'ENA, qui fait sans doute plaisir sur les réseaux sociaux, et qui ne règle rien, bien au contraire, qui vient décapiter une certaine forme d'excellence française, dont on dit par habitude beaucoup de mal, mais dont on oublie que c'est celle qui permet de tenir les fondamentaux de la République.
Oui, mais monsieur Copé, loi travail. Il a été plus loin que même Hollande a été plus loin que finalement Sarkozy sur la loi travail. Si on regarde ça, il y a eu la loi travail El Khomri, loi travail Macron, baisse de l'ISF. CICE que n'avait pas fait Sarkozy, flat tax que n'avait pas fait non plus la droite. En fait, Macron sur le programme et puis la loi, la retraite, la réforme des retraites et la réforme de l'assurance chômage, il n'y avait pas eu la pandémie, là, elle passait. Il avait l'air d'être assez décidé et il se tâte encore un peu d'ailleurs sur la réforme des retraites. Donc j'ai l'impression quand même que finalement, et moi je constate ça et que des gens comme Hollande et Macron étaient plus loin sur des réformes économiques de droite que Sarkozy. Donc ça, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis un économiste plutôt classé à gauche, entre guillemets. Donc c'est voilà.
Non, mais pour être très clair, moi, je fais partie des gens qui ont été très très enthousiastes à l'arrivée de Nicolas Sarkozy, et je l'ai dit publiquement, qui considèrent que ça a été un rendez-vous manqué sur un certain nombre de sujets, parce que arrivé en 2012 après 5 années. On a manqué des rendez-vous sur le régalien. On en a manqué. On aurait dû aller plus loin. Et de la même manière sur le plan des réformes, il y a des choses qui auraient dû être faites. On est d'accord. Bon, et je l'ai dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Puis ça commence à faire loin. C'était il y a 10 ans. Mais on peut pas dire que François Hollande ait fait ce que vous venez de dire. François Hollande, je suis désolé, n'a fait aucune réforme de structure. La loi El Khomri était un assouplissement. Enfin, je rappelle les hausses d'impôts, je rappelle les lourdeurs administratives, et je rappelle l'absence de réforme structurelle. Bon, quant à Monsieur Macron, il faut pas nous dire que c'est de la faute de la crise sanitaire. Je rappelle que avant la crise sanitaire, il y a eu 3 ans et que ces 3 années ont été totalement gâchées. Et je suis d'autant plus au clair pour vous le dire que je pense, j'ai d'ailleurs théorisé là-dessus, que les grandes décisions d'un quinquennat, vous les prenez les trois premiers mois du quinquennat par ordonnance. Et ensuite, vous consacrez.
La loi travail.
Ben, c'est la seule qu'il a faite par ordonnance, c'est la seule qu'il a réussi.
Avec l'ISF.
Non, mais c'est la seule.
Un homme de droite, je veux dire, vu de droite.
Non, mais vu de droite, de gauche, du centre ou même de l'espace, une réforme du travail, elle est nécessaire. C'est pas un problème idéologique.
Enfin, écoutez, après, on en discutera.
Mais écoutez, dans un pays qui est exposé à la concurrence mondiale, il faut quelques souplesses pour permettre aux entreprises de créer de la richesse en France, sinon elles s'en vont. Quand on dit créer de la richesse, c'est de la valeur ajoutée, de l'activité et de l'emploi. À partir du moment où vous mettez des rigidités comme celles qu'on a, ben les entreprises se délocalisent. Donc, il y a eu quelques souplesses.
Il
y a quand même des chiffres qui parlent. Mais oui, juste, oui, je termine là-dessus. Encore une fois, la souplesse, je dis pas de faire n'importe quoi, mais quelques souplesses en matière d'emploi, et c'est un continuum qu'il faudrait poursuivre.
Mais pardon, j'ai pas compris, qui est votre candidat alors pour 2022?
Ah ben, j'en sais rien. Alors là, écoutez, ça va un
vous
peu
avez
vite.
Pas choisi?
On va attendre. Ben non. Pour une raison simple, on va attendre un peu quand même de voir qui se détache, sachant que de mon point de vue, on va déjà voir ce que donne l'ensemble du paysage politique à droite dans les six mois qui viennent. Et puis moi, je vais quand même regarder aussi les programmes.
C'est qu'on attend une personne et que les Français, on attend toujours l'homme ou la femme providentielle. Alors qu'on aimerait bien savoir ce que vous voulez.
Tellement d'accord avec vous. Tellement d'accord avec vous. Ces six mois, au lieu de les consacrer à revoir le match avec toutes les violences qui s'imposent, Laurent Wauquiez, Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, enfin, on est parti. Bon, très bien. Donc, s'ils vont se taper dessus, ça va être affreux. Et donc, pendant ce temps-là, on va pas parler de la seule chose qui intéresse les Français, c'est si vous étiez au pouvoir à la droite, vous feriez quoi? Alors, là, je vous livre ce que je crois être, moi, fondamental. Alors, c'est assez... Oui, je le dis avec une certaine forme de sourire triste ou de tristesse souriante, c'est que moi je me suis préparé depuis que j'étais très très petit à vouloir être président de la République.
Oui, vous l'aviez dit.
Voilà.
Mmh.
Et puis finalement les circonstances diverses et variées,
la vie est longue.
La haine, tout ce qui s'en est ressorti, fait que j'ai pris pas mal de recul. Mais du coup, ça m'a pas empêché de me dire tiens, si j'y étais, je proposerais ça. Vous voyez, cette espèce de truc un peu bizarre qui fait que je suis heureux de le partager avec vous, parce qu'au moins vous serez quatre à l'avoir entendu.
C'est quoi la première réforme?
Donc je vais vous dire comment je vois les choses. En fait, je pense que la crise sanitaire et économique que nous traversons, et qui en fait n'est qu'au début, parce qu'on a bien compris que ça allait durer très longtemps, nécessite que le prochain président de la République, en tout cas s'il partage des idées qui sont les miennes, de droite, mais de droite moderne, propose aux Français une vision avec un nouveau modèle d'État, qui soit beaucoup plus clair, qu'on sorte de l'ambiguïté, et que l'on essaye, plutôt que d'avoir 110 propositions dans tous les sens, fasse reposer ça sur deux piliers. D'un côté, l'autorité, l'ordre, l'idée de dire on peut pas laisser faire n'importe quoi dans une démocratie, c'est jamais été écrit nulle part. Et de l'autre, le progrès. L'autorité, l'ordre, au sens où ça c'est l'État et les mairies, les collectivités locales qui doivent l'assumer, la police nationale, les polices municipales armées, les dispositifs que nous mettons en place avec des succès remarquables, je peux en porter témoignage à mots, une justice avec des moyens renforcés, la justice travaille dans des conditions épouvantables. Ouais. Tout le monde est focalisé sur le parquet financier. Ouais. Enfin, on oublie ce que sont le terrain dans nos villes, les parquets qui travaillent dans des conditions épouvantables, les magistrats et qui font un travail remarquable. Je regarde tout ce qui se passe dans ce domaine-là.
La RGPP, depuis le temps de Sarkozy, n'y est pour rien dans tout ça?
Non, pour en parler, la RGPP, c'est une...
l'éducation nationale, la police, dans la justice,
écoutez,
et
si
à l'hôpital, elle y est pour quelque chose.
Je vais revenir sur tout ça, c'est très important. Mais juste pour terminer, donc le premier pilier, c'est l'autorité. C'est l'idée de dire, dans une démocratie, on ne fait pas n'importe quoi, sinon c'est les extrémistes qui prennent le pouvoir. Et le deuxième pilier, à égalité avec le premier, c'est le progrès. Progrès social, progrès scientifique, progrès économique, progrès écologique.
Mais on peut et on ne sera pas d'accord forcément sur la définition du progrès.
Ça, je suis bien d'accord avec vous, on peut tout à fait avoir tous les désaccords. Mais je pense qu'on ne peut pas non plus satisfaire 100% de Français. C'est le principe de la démocratie. Mais qu'est-ce que je mets dans cette idée-là? Je dis que l'autorité, ça doit être l'apanage de l'État et des collectivités publiques, locales. Le progrès, c'est les Français. On leur fait confiance. À eux de donner le meilleur d'eux-mêmes. Et donc, on crée les conditions pour ça. On assouplit les contraintes administratives. On donne des moyens pour faire, des incitations fiscales. On encourage, au lieu d'être sans arrêt dans la sanction et la culpabilisation. Et on fait confiance aux Français. Moi, je pars de cette idée que chaque Français est important. Qu'au lieu d'être en permanence en train de hiérarchiser les uns et les autres, on dise, OK, vous avez un projet, allez-y. Moi, en tant que maire, quand quelqu'un vient me voir en me disant, je voudrais faire une pro-initiative pour la ville, dans tel ou tel domaine, allez-y. Foncez. On verra comment on peut vous aider, mais allez-y. On commence par être positif. Ce pouvoir de dire non en permanence décourage les gens.
J'ai une question à vous poser là, très simple. Vous êtes en plus le maire d'une ville de banlieue, de Meaux. voyez, par exemple, la baisse des dotations aux collectivités locales, qui a été faite sous Hollande, comme on n'a jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, et poursuivie par Macron. Moi, je vois, par exemple, d'une ville comme La Courneuve, ça a fait que dans les écoles, on a supprimé les cours du soir. Voyez, il y a moins de moyens pour tout le périscolaire, il y a moins de moyens pour les crèches, il y a moins de moyens pour les loisirs, il y a moins de moyens pour la culture. Voyez, donc il y a moins de moyens pour le progrès, parce que tout ça, c'est quand même, c'est le progrès. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors?
Je vais vous dire, je regrette comme tout le monde que on ait à la fois baissé les dotations de l'État aux collectivités locales tout en leur demandant d'en faire plus. Ouais, ça c'est absurde. Et en même temps d'avoir supprimé la taxe d'habitation. Parce que du coup, on enlève vraiment tous les leviers. Ouais, c'est une asphyxie. Et d'ailleurs, tous les maires se disent, mais jusqu'à quand vous nous mettez des seaux d'eau sur la tête pour nous empêcher d'avancer?
Et ça, reste c'est une politique d'économie.
Reste que, vous ayant dit cela, moi, je n'ai pas réduit le soutien scolaire, je n'ai pas réduit les moyens sur les crèches, je n'ai absolument pas réduit, bien au contraire, les moyens sur la sécurité.
Donc,
je fais des économies de fonctionnement. Bien sûr, on fait extrêmement attention. J'ai, depuis que je suis maire, ça fait des années, veillé à ce que nos budgets soient toujours avec ce qu'on appelle, dans notre jargon, une épargne nette positive, c'est-à-dire qu'on n'est jamais en solde de fonctionnement déficitaire par rapport au remboursement de la dette. On fait très très attention à tout ça. Et on va chercher, dans les bons endroits, les partenariats publics ou privés, les subventions quand on en a besoin, et avec cela, on arrive à trouver les bons équilibres. Mais c'est pour autant, c'est vrai qu'on aimerait de temps en temps qu'on nous donne un peu plus de marge de manœuvre. Quand on découvre du jour au lendemain, parce que une nuit, quatre députés en marche, un peu, dans leur monde, quoi. Ils sont sympas, mais ils ont jamais été maires de leur vie. Donc ils sont frais, ils sont printaniers, mais ils décident tout seuls. Décident un beau jour que désormais la gestion des eaux usées, des eaux pluviales, ce sera les communes et qu'il faut le décider au 1er juillet, donc tout va très très vite. Et on dit que vous allez avoir des moyens pour le faire. Non, vous vous débrouillez, très bien, donc c'est les agglomérations
qui viennent. C'est aussi peut-être l'effet du non-cumul des mandats qui est une aberration, c'est-à-dire que normalement, un maire devrait pouvoir être
débouillé. Mais je suis bien d'accord avec vous,
quand quelqu'un arrive au pouvoir, pourquoi est-ce qu'on ne revient pas sur un certain nombre? Le problème, il est aussi là, c'est qu'il y a eu un empilement de réformes et que personne n'ose jamais revenir sur des réformes institutionnelles structurelles qui nous ont défait, et je mets
Français,
le quinquennat là-dedans. Le quinquennat est en train de tuer la 5e République. L'alignement des calendriers électoraux a tué la vivacité de notre démocratie, et ça a participé à la défiance collective. Donc tout ça, et je ne vous parle même pas du référendum de 2005, du traité de Lisbonne signé par Nicolas Sarkozy, tout ça, ça a été les éléments de création d'une défiance profonde entre les Français et leurs dirigeants.
D'abord, m'engueulez pas, parce que bien beaucoup de choses que j'ai pas fait moi-même.
Deuxièmement,
Deuxièmement, mais je suis hyper européen, moi. Donc moi, je vote oui. À chaque fois qu'il y a l'Europe, je vote oui, et sans hésiter, parce que je me souviens de ce que c'est que l'histoire de l'Europe. Mais puisqu'on est là-dessus, démarrons sur le cumul des mandats. Super intéressant sujet. Pourquoi? Parce que là encore, l'idéologie à Paris, de gens qui n'y connaissent rigoureusement rien, mais qui parlent à la place des autres, sont venus nous expliquer comment il fallait faire. Et il a été décidé à Paris, je dis vraiment à Paris, c'est-à-dire dans cette espèce d'ambiance où on n'est jamais sur le terrain accroché à des problèmes concrets, on dit, quand même, le cumul. Et donc, on a même parlé de cumulard pour être bien sûr de tuer le débat, parce qu'évidemment, on n'a jamais envie de dire du bien d'un cumulard. Et donc, on a interdit aux maires d'être députés. Voilà. Donc, désormais, vous êtes maire, vous restez chez vous. Alors, c'est d'autant plus extravagant que dans le même temps, on pleurniche toute la journée sur le thème de la coupure entre Paris et la province. Voilà. Donc c'est pour ça que du coup vous avez des députés en marche. Ils sont gays, ils sont contents, ils sont très heureux.
Ils ne se représentera même pas.
Mais ils se représentent pas parce qu'ils ont pris sur rien. Mais pourquoi ils ont pris sur rien? Parce qu'on les connaît même pas.
Exactement.
Moi je peux vous dire, en Seine-et-Marne, c'est pas leur faire offense, mais c'est seulement l'année dernière quand j'ai eu une ministre qui est venue en visite à Meaux, parce que moi je suis très engagé sur la question des violences conjugales et on a une association formidable, et donc la ministre des droits des femmes est venue, et tout d'un coup j'ai vu débarquer 5 personnes. Et on m'a dit, mais ils sont dans le coin là, c'est les députés en marge de Seine-et-Marre. Je ne les ai jamais vus de ma vie.
Par contre, il y a un problème, monsieur Copé. Ils auraient quand même.
Rien ne les empêche d'être sur le terrain.
Mais je suis obligé de vous dire quelque chose d'assez cruel. En réalité, un député qui n'a pas de mandat local ne sert à rien.
Exactement.
Pourquoi? Parce que quand vous êtes un citoyen et que vous avez un problème. Vous allez voir qui? Vous allez voir le maire. Parce que si vous allez voir le député, il vous dit je vais écrire au maire de votre commune. Donc vous dites je vais aller voir le maire. Or pourquoi vous allez voir le maire? Quand il y a des voyous en bas de l'immeuble de chez vous qui menacent votre fille ou qui vous rendent la vie impossible. Quand il y a un trou dans le trottoir que personne ne bouge. Alors quand vous êtes maire, c'est votre métier. Quand vous êtes à la recherche pour votre enfant d'un stage en alternance personne ne veut vous donner à votre fils ou à votre fille, le maire qu'est-ce qu'il fait? Il donne un coup de main. Il essaie de trouver des des solutions. Et puis sans oublier ce qui est le quotidien d'un maire de ville de Meaux où il y a une population qui est très en difficulté pour une partie d'entre elles. Bah, c'est des situations d'une gravité souvent extrême. Et heureusement que le maire est là pour accompagner un certain nombre de nos compatriotes dans la détresse qui est la leur. Et ça, on l'oublie très souvent parce que on ne rend jamais justice du travail que font les maires sur le terrain.
Une dernière question, Jean-François Copé. Éric Zemmour, vous en pensez quoi? Il pourrait être candidat à l'élection
présidentielle. Non, mais Éric Zemmour, je vais vous dire. D'abord, je le connais depuis toujours. Je l'ai connu comme journaliste.
Ah oui, c'est un journaliste politique.
Jeune journaliste au Figaro. Dans la vie, hyper sympa. Évidemment, on ment tout le temps. On est là, on est obligé de se vouvoyer. Non, mais on les connaît. Bon, donc Éric Zemmour, je le connais très bien. Bon, c'est un gars qui est extrêmement sympathique dans la vie et qui a pris un chemin. Parce que c'est un mélange à la fois de réflexion personnelle de très bon niveau et je suis quand même obligé de le dire, un peu de fond de commerce quoi. Voilà, c'est le côté j'ai trouvé un filon, je vais développer ma pensée sur le thème suivant, c'était mieux avant. Voilà. Donc les années 60-70 c'était génial par rapport à aujourd'hui, c'est... et du coup tout ce qui donne le sentiment que le progrès a permis une qualité de vie exceptionnelle aujourd'hui, que l'Europe a permis à la France d'être une plus grande puissance qu'elle n'était avant, contrairement à ce qu'on raconte, tout ça est passé à la trappe parce que ça rentre pas dans la démonstration. Et enfin, dernier point, Éric Zemmour, il a fait un choix qui est intéressant, c'est de faire de la politique du point de vue intellectuel. C'est-à-dire qu'il zappe systématiquement toute discussion sur comment ça se passe sur le terrain. Et si vous avez le malheur, je le dis, j'ai fait un débat face à lui, j'ai vraiment voulu faire l'exercice, ça m'a bien plu, moi. Dès que vous avez le malheur de dire, mais vous savez, Éric Zemmour, en fait, moi, à Meaux, je vois pas ça. Alors là, il vous dit, bah, évidemment, les maires n'y comprennent rien, c'est fait, limite si on n'est pas des sous-hommes parce qu'on a eu le malheur de raconter une histoire vraie. Et donc, c'est ce qui fait la différence. Et donc, on a besoin évidemment d'Éric Zemmour parce que il participe au débat.
Et pas comme candidat.
Comme candidat, ça c'est sa vie. Mais moi, j'adorerais qu'il soit candidat. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a rien de tel que de passer du gars qui est derrière son pupitre à donner des leçons aux autres à ok mon pote, allez, viens nous donner un petit coup de main. Tiens, tu fais quoi pour l'entreprise qui ferme là? Tu fais quoi pour cette personne qui est cette dame qui est victime de violences conjugales depuis des mois, à qui personne ne veut trouver une solution? Comment on fait? Voilà. Et c'est pas juste je cogne, je tape, je vire. Non, il faut parfois trouver des nuances
et des solutions. Merci Jean-François Copé d'être venu dans les grandes gueules ce matin. On va se retrouver lundi après le week-end, reposé à 9h avec Jérôme Florido, le restaurateur de Perpignan, l'avocat Charles Consigny, Barbara Lefebvre qui revient en deuxième semaine et François Gémen, le climatologue. Portez-vous bien, passez un très bon week-end sur RMC, RMC Story.
RMC, Olivier Truchot, les grandes gueules.